Vous savez qu'il y avait le processus de paix en Israël, vous le savez ça. Alors ça dure, je crois, au moins 30 ans maintenant. Ça commence, puis c'est brisé, ça recommence, c'est brisé, ça commence. Et j'aimerais simplement vous dire que ça n'aboutira jamais à la paix, jamais. La raison est simple, c'est que et le président d'Israël et le Abbas, qui est à la tête de l'OLP, tous les deux savent pertinemment que ça ne peut jamais aboutir. Ils le savent, ça, tous les deux. Et vous dites, mais alors pourquoi continue-t-il? Mais c'est simple, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux parler de paix que de mettre la guerre. Alors ils parlent. Mais ils savent bien que ça ne peut pas aboutir. Pourquoi? C'est simple, c'est que les Palestiniens exigent avoir la moitié de Jérusalem comme leur capitale. Et les Israéliens avaient déjà eu la division de Jérusalem en deux Jérusalem. Quand ils ont mis les deux ensemble, il est évident qu'ils ne vont jamais vouloir le partager de nouveau. Alors, comme Israël refuse catégoriquement de diviser Jérusalem, et comme les Palestiniens sont résolus d'avoir la moitié, c'est une impasse. Donc, tous les deux, Abbas et Netanyahu, savent bien que ça ne peut pas aboutir. Ils poursuivent, mais un de ces jours, ça va mal terminer. Ça va provoquer la guerre. On est en train de préparer ça, grand pas, un peu partout. Et alors, ceci figure à la fin des temps. La Bible prédit une guerre à outrance entre les pays arabes d'alentour et Israël. Alors, on risque d'y être. Une chose qui a été déclarée par tout le monde, c'est qu'il y aura la guerre cet été. Maintenant, cette guerre cet été, est-ce bien la guerre biblique ou est-ce que simplement une autre guerre en préparation de la grande? Ça, je ne sais pas. Mais ça peut être la grande. Alors maintenant, j'aimerais dire tout simplement que tout le monde est intrigué par l'avenir. Ça intrigue tout le monde. La preuve, c'est que les voyantes ont toujours des clients. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va me passer. Quelquefois, ils tombent juste, hein? Mais beaucoup de fois, ils tombent à côté. La Bible tombe toujours juste. Voilà la différence. Comme disait Pasteur Emmanuel tout à l'heure, ça ne prédit pas qui sera le président, tout le reste, mais tout ce qui est prédit va s'accomplir à la lettre. Et c'est pour cela que c'est tellement intéressant de prendre la Bible et de regarder ce qu'elle dit concernant l'avenir. La première des choses, c'est qu'au début, les premiers chrétiens attendaient l'enlèvement. De toutes les prophéties bibliques, ce qui intéresse les vrais chrétiens, au-dessus de toute chose, quand est-ce que ça va avoir lieu? C'est-à-dire, nous attendons l'enlèvement. Bien sûr, on s'intéresse à ce qui va se passer après la marque de la bête, l'Antichrist, la construction du temple, etc. Mais ce qui nous intéresse, quand partons-nous? C'est ça que nous voulons savoir. Alors, ce soir, j'espère pouvoir répondre un peu à cette question. Mais surtout de vous dire que les premiers chrétiens pensaient que l'enlèvement aurait lieu en leur temps. Pourquoi? Parce que la Bible parle d'un empire mondial. Mais ils avaient un empire mondial. Ils avaient le premier empire mondial, la dernière empire mondial, c'est-à-dire les Romains, qui est allé beaucoup plus loin que les autres empires, avec par exemple Nebuchadnezzar et les autres. En plus de ça, il y a la persécution. persécution des chrétiens. Donc, ça semblait à ce que Christ a dit dans sa parole. Alors, il pensait que voilà, c'est maintenant. Mais, bien sûr, ce n'était pas à ce moment-là. Mais la foi continuait jusqu'à la formation de l'Église catholique romaine, qui englobait toutes les églises à ce moment-là. C'était la formation de l'Église catholique. Et avec Augustin, il changeait les données en ce qui concerne le jugement final. Il disait, Augustin, personne ne sait s'il va au ciel ou s'il va en enfer. Il faut attendre qu'il soit devant Dieu. Et que tout le monde va passer devant Dieu et Dieu dira, voilà, toi tu restes et toi tu vas en enfer. Alors, le tri serait là. Le problème, c'est que rien de tout cela n'est dans la Bible. Rien. Par exemple, il y a dans la Bible le grand trône blanc où tous les gens qui seront ressuscités dans la deuxième résurrection vont paraître. Mais ce qui est à noter, c'est qu'il n'y aura pas un seul chrétien devant le grand trône blanc. Quand je dis un seul chrétien, je me comprends. Je veux dire celui qui est vraiment sauvé. Il n'y aura pas un seul personne qui est sauvée devant le grand trône blanc. Ça sera le jugement des inconvertis. Et tous vont aller dans le lac de feu. Il y a aussi un jugement qui s'appelle le jugement des nations, où Dieu va dire justement, il y a les brebis et les boucs. Hein? Et il va les séparer. Mais encore, ce n'est pas le dernier jugement. Ça, c'est un jugement que nous allons étudier la semaine prochaine. Je vais traiter plusieurs sujets qui sont fort intéressants la semaine prochaine. La parabole des dix vierges, le jugement des nations, Noé, ça a été touché par Pasteur Emmanuel, mais je vais compléter ça. Donc ça va être fort intéressant, mais ce soir, on va s'attarder sur l'enlèvement, car c'est ça qui nous intéresse. Vous savez que, donc à partir de la formation de l'Église catholique, vers le 4e siècle, jusqu'au 20e siècle, 1901, 2, 3 ou 4 par là, il y avait tout d'un coup un homme en Angleterre qui s'appelait Darby, qui a regardé de nouveau dans la Bible, et il a lu en Thessaloniciens 4, il a compris qu'il y aura un enlèvement de l'Église, et il a lancé ça dans le monde. Darby était connu donc. Il y a même une église qui s'appelle, même en France, qui s'appelle les Darbistes. C'est ceux qui suivent l'enseignement de Darby, qui était celui qui a retrouvé l'enlèvement début. Alors, aussitôt, ça a traversé l'Atlantique et le collège de Gordon à Boston a saisi cela et a proclamé ça à travers les États-Unis. Alors, dans les années 30, mais même 20, oh là là, c'était le sujet des chrétiens. Mais on ne parlait que de cela. Moi, j'arrive vers les années 30, hein, parce que là, j'étais dans une école de dimanche, comme on appelle ça en Amérique, où il y a les enfants qui viennent avant la grande réunion, le culte, et on les enseigne. Alors j'étais dans une classe de garçons, et le sujet c'était la prophétie. Et le sujet principal c'était l'enlèvement. Alors, oh là là, j'étais fasciné, parce qu'on parlait que de l'enlèvement, et il a dit, ou on part, ou on reste avec l'Antichrist. Alors, nous n'étions pas bêtes quand même, on a compris ça. Et à la langue, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être sauvé? Oh, j'ai dit moi. Alors ce matin-là, j'étais sauvé. Donc l'enlèvement a une grande place dans mon cœur. Je pense à l'enlèvement. J'ai attendu l'enlèvement depuis ce jour-là jusque maintenant. Hein. Donc ça fait plusieurs mois maintenant. Alors donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a un verset dans la Bible à ce moment qui m'a beaucoup intrigué, m'a même troublé. Je vais vous le passer maintenant. C'est en 2 Timothée. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder 2 Timothée. De Timothée 4, et je suis au verset 8, je crois. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors je dis, voilà, une couronne pour ceux qui aiment l'avènement de Christ, une couronne réservée pour ceux qui aiment ça, mais alors, je dis, tout le monde aura cette couronne. Ça, c'est une couronne qui n'est pas difficile à gagner. Alors là, je dis pour une fois, parce qu'il y a la couronne des martyrs, la couronne d'enseignement, la couronne de ceci, mais la couronne pour attendre le retour de Christ, je dis voilà, mais ça, tout le monde va gagner ça. Mais vous savez, à partir de 50, c'est curieux, Israël était formé en 48, mais à partir des années 50, les pasteurs ont commencé à ne plus en parler tellement de l'enlèvement. Vous savez qu'il y a des personnes qui viennent ici, d'autres églises, des fois, ils me disent, notre pasteur n'en parle jamais. Et de petit à petit, l'enseignement de l'enlèvement disparaît de nouveau. Il y a maintenant très peu de gens qui attendent l'enlèvement de l'Église, très peu, dans le monde entier. Et pour l'aimer, encore moins. C'est-à-dire, ils sont peut-être au courant, mais ils ne l'aiment pas. C'est donné pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'attendent avec impatience, pour ceux qui veulent y être. Pas pour ceux qui disent, non, il faut que je me marie d'abord. Pour ceux qui disent, voilà, il faut que j'ai ma maison d'abord, ou ma nouvelle voiture. Il faut aimer le retour de Christ plus que toute autre chose au monde. Être tellement amoureux de cette idée, si je peux m'exprimer ainsi, que vous aimeriez que ça se passe ce soir. Alors là, c'est d'aimer son retour. Alors, un chapitre maintenant, avec vos Bibles, ouvrez-la à Matthieu 24. C'est là où nous allons nous tarder ce soir. Nous attardons. Alors là, vous avez un verset qui c'est le verset qui dit que on ne doit pas fixer ni le jour ni l'heure de son retour. C'est dans ce passage. Parce que vous... 36. Bon, alors si vous avez, vous le savez alors. Hein? Il ne faut pas fixer ni le jour ni l'heure de son retour. Alors, à cause de ce verset-là, des gens disent, il ne faut pas en parler, parce qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Donc, étant donné qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, il vaudrait mieux rien dire au sujet de l'enlèvement. Alors, écoutez-moi bien maintenant. il y a un monde de différence entre de déclarer le jour et l'heure et celle de dire l'époque dans laquelle il va venir. Pourquoi je dis ça? Mais si Christ a donné tous ces signes de son arrivée, de son avènement, c'était pour une raison. C'est pour qu'on l'attende, pour qu'on sache à peu près quand il va arriver. Alors, c'est ça qu'on va voir ce soir. Vous connaissez l'histoire du garçon là qui, on lui a dit de crier loup s'il y avait un loup qui venait. Alors, le garçon, sachant que tout le monde allait venir, s'il criait loup, il dit « loup !» Alors tout le monde est venu à son aide et il a dit « non, il n'y a pas de loup. » Ah. Alors quelque temps après, ça lui a piqué encore, il a dit « il y a le loup !» Alors tout le monde vient et dit « pas de loup. » Alors, vous connaissez... Alors, parce que les gens ont prédit le retour de Christ, il y avait même un pasteur dans la ville où j'étais élevé. Il a donné le jour et l'heure. Alors lui, pour être précis, il était précis. Hein. Il a troublé toute la ville. Ma mère était là, moi je n'étais pas là, j'étais en Europe. Mais ma mère qui était là, elle a dit, mais tous les jours, rappelez-vous, c'est la semaine prochaine. Tel jour, oh là là, toute la ville était comme ça, il ne savait pas s'il avait raison ou non. Puis... le jour est venu, il est passé. Oh, pardon. Alors, avec des gens qui ont prédit à peu près le jour, n'est-ce pas, il va venir cette année, ou n'est-ce pas, sans préciser le jour et l'heure, mais cette année, c'est sûr, il va venir, puis il n'est pas venu. C'est le garçon qui crie loup, il n'est pas venu. Vous connaissez la fin de l'histoire de loup? Le loup est venu. Et alors, il a été attrapé. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Les gens disent, voilà, on a prédit ça, il n'est pas venu. Pff, à l'aise. C'est à ce moment qu'ils viennent. C'est à ce moment, c'est précisément parce que personne ne l'attend que nous sommes très prêts. Extrêmement prêts. Je vais vous le dire plus tard. Mais on a bien avancé. Vous savez... En Amérique, on dit, ça ressemble à un canard. Et ça quaque comme un canard. Et ça marche comme un canard. Et ça vole comme un canard. On peut dire, franchement, c'est un canard. Eh bien, quand on a 20 prophéties qui convergent sur un seul point, on peut dire, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui n'existait pas pendant les années 40, 50, 60, surtout avant 48, il n'y avait aucun signe de la fin des temps. Israël n'est pas né. Il n'y avait pas la formation de l'Europe, il n'y avait rien à ce moment-là. C'est après 50 que des signes commençaient à venir, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant avec tous les signes présents. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment commencer à considérer où nous en sommes. Le passage au début de 24, Matthieu 24, c'était le passage que le pasteur Emmanuel a traité, avec des signes, tremblement de terre, la famine, tout ça. Il a traité tout ça, donc je ne vais pas le refaire. Ces signes-là sont les signes qui précèdent la tribulation. Qui prépare le cœur pour la tribulation, je me comprends. Ça veut dire que la tribulation, la grande tribulation, s'approche. Moi, je suis de la persuasion que Jésus a laissé les premiers versets en Matthieu 24 pour nous, l'Église, pour qu'on sache à peu près où nous sommes dans l'histoire de l'humanité. Parce que après ces premières choses, il donne un verset. Il faut que je trouve ce verset. En Matthieu 24, là, si vous voulez, c'est arrêté. Il arrête avec un certain verset. Il arrête avec le verset 14, je crois. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Beaucoup de gens sont venus me voir à ce propos en disant, voilà, Christ ne peut pas venir encore. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que toutes les nations n'ont pas reçu encore le message. Mais sachez une chose, le message du royaume n'est pas le message qu'on prêche aujourd'hui. Nous prêchons le message de la grâce de Dieu. Comment être sauvé par la grâce? Que Christ s'est donné lui-même pour nous sauver et que si on met notre foi en lui, toute notre foi en Christ, pas un peu en lui et un peu en nous et un peu en l'Église et un peu, non. Quand on met toute notre confiance en Christ, Christ nous sauve dans un instant. Et on est sauvé pour l'éternité. C'est clair, c'est net. Mais ce message du royaume n'est pas ça du tout. Le message du royaume, c'est que le roi va venir bientôt. Préparez-vous. Le roi va venir bientôt. Préparez-vous. Oh, on va traiter ça en long et en large dans les jours à venir. Je ne vais pas entrer en détail pour le moment. Mais sachez que le message du royaume sera le message qui sera prêché par 144 000 juifs qui seront scellés aussitôt que l'Église est enlevée. Ça, c'est le message de cela. C'est après ceci que maintenant Christ passe des signes qui précèdent la tribulation et qui entrent dans la tribulation. Et il parle des signes pendant la tribulation. Regardons, on va revenir à ce verset-là et à Matthieu 24. Et il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, vous connaissez cette prophétie, la prophétie de la statue que la Bible appelle l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'au milieu de la tribulation, l'Antichrist va briser son pacte avec Israël. Au début de la tribulation, il va faire un pacte. Et ça va durer 3 ans et demi, mais à ce moment, il va briser. Et quand il va briser ça, il va offrir un cochon sur l'autel du temple pour le profaner totalement. Et puis, il va élever une statue qui va parler d'ailleurs, animée. Et cette statue sera là pour que les gens fléchissent le genou devant la statue. Ça nous fait penser à Nebuchadnezzar, le premier empereur mondial, et il a aussi érigé une statue. Mais il y avait trois garçons, jeunes hommes, qui ont refusé. L'un s'appelle Shadrach, l'autre Meshach et Abednego. Et ces trois ont dit non, on ne fléchit pas le genou. Alors ils ont été jetés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois plus qu'il ne fallait, qui a tué même les gens qui les ont jetés au feu, mais les flammes ne l'ont pas touché. Ils sont sortis comme ils sont entrés, en avant nous autres. Ça, c'est le deuxième miracle de l'importance dans tout l'Ancien Testament. Le premier miracle, le plus important, c'est quand Josué a dit au soleil, arrête-toi. On ne commande pas les planètes. Ça, c'est le plus grand miracle de l'Ancien Testament. Mais le deuxième, c'est les enfants dans la fournaise. alors il va ériger l'Antichrist comme le premier, une statue. Et la Bible dit que quand vous verrez ça, il est difficile pour moi de le lire, mais je vais vous le dire. Quand vous lisez ça, fuyez dans les montagnes. Fuyez dans les montagnes. Immédiatement, parce que les jours horribles vont venir par la suite. Et si vous êtes dans un champ, vous quittez là, vous ne retournez même pas à la maison. Vous partez tout de suite pour les montagnes. Ça, c'est les paroles de Christ, le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Partez pour les montagnes. Quelles montagnes? Il y avait autour de Jérusalem des montagnes. Alors, mais quelle montagne pouvait héberger des centaines, peut-être un millier de personnes? Je ne connais pas. Sauf une seule. Je vous donne la référence maintenant. Psaume 108, verset 11. Psaume 108, verset 11. Alors là, je lis ceci, au verset 11. « Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? » Qui me conduit à Édom? Ce verset, c'est pour les Juifs, à ce moment-là. Qui va me conduire à la montagne? Qui va me mener là-bas? Alors, quelle montagne? Mais c'est en Édom. Qu'est-ce que Édom? La Jordanie. Et quelle ville peut les héberger? Petra. Il y a une ville là-bas. Une grande ville qui était une ville d'une grande importance dans le temps. Puis ça a été délaissé par les marchands et ça a devenu... Mais c'est un lieu de tourisme. Hein. Moi, je vous le dis, quand quelqu'un va en Jordanie, il va toujours à Petra. C'est un Édom. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des appartements tout faits, hein, dans les rochers. Ça peut héberger beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Les chrétiens savent ça. Et quand ils ont lu ceci, vous savez qu'il y a des missions en Amérique qui ont planté des Bibles là-dedans, que quand les Juifs arrivent, ils auront la Bible pour savoir ce qu'il faut faire. Mais chose extraordinaire, c'est que malgré la parole de Christ, fuyez tout de suite, la quasi-totalité des Juifs vont rester sur place. Ils vont subir l'arrivée de l'Antichrist qui va ravager les femmes, elles seront violées, tuer les hommes en grand masse. Vous savez, pourquoi c'est tellement difficile de croire Dieu et de l'obéir? Vous savez que toute notre nature est contre Dieu, d'office. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, personne ici sera sauvé. Je n'ai pas cherché Christ, il m'a cherché. Dans la nature humaine, Dieu n'a qu'à dire, voilà, il faut faire ceci, cela, mais non, je ne vais pas le faire. C'est la rébellion. Nous, les chrétiens, croire, obéir. Voilà le remède. Voilà le secret d'une vie merveilleuse, une vie heureuse. Croire, obéir. Vous savez, les deux choses les plus difficiles pour nous de faire, croire, parce que là, on marche les yeux fermés, hein. Quand on croit, on ne voit rien. Hein? On croit. On dit, crois en Dieu. Mais où est-il? Mais non, mais il est là, ne vous en faites pas. Oui, mais je ne le vois pas. Non, mais bien sûr. Ça, c'est la foi. Je mets ma confiance, même si je ne vois pas. Et puis obéir. Oh là là, obéir, c'est encore autre chose. Hein? On n'est pas prêt à obéir à Dieu. On n'est pas prêt à faire sa volonté. Croire, obéir. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester à Jérusalem et être abattus. par l'Antichrist. Tout simplement parce qu'il refuse de se cacher à Petra. Maintenant, avec ce verset-là, tout change. Maintenant, Jésus va parler des signes au milieu de la tribulation. Maintenant, avant, c'était les signes qui précèdent, qui sont pour nous montrer que nous sommes à la saison. Et puis maintenant, c'est l'autre. Alors, l'abomination, ça c'est la première. Et après cela, c'est quoi? Je crois que c'est... Il faut que je vois. Après cela, c'est les versets avec des faux Christ, des faux Christ de 24 à 28. Des faux Christ qui vont dire, c'est moi le Messie, moi je suis venu pour vous délivrer. Et dans le désert, dans la chambre, il a dit, n'y allez pas. Parce que quand le Fils de Dieu va venir, il va venir comme un éclair. C'est curieux, il y a eu toujours des faux Christ. Même avant que Christ vienne la première fois, il y avait plusieurs qui ont dit, je suis le Christ. Et leur entreprise est tombée à l'eau, hein. Ça n'a pas marché. Dans l'Église, il y a toujours des faux prophètes. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui prêche l'Évangile, vous aurez toujours quelqu'un qui vient en disant, non, c'est pas ça. Il faut faire autre chose. Vous savez que c'est arrivé dans le premier siècle. Il a dit, méfiez-vous des faux prophètes qui vont venir ravager le troupeau. Ça a été toujours. Alors il y aura des faux Christ qui vont venir. Et puis le verset après, c'est le verset où Christ vient lui-même. Vous allez voir, il vient comme un éclair. Et à ce moment, il y aura le jugement des nations que je vais prendre la semaine prochaine. Il va venir, bon, qu'est-ce qu'il va faire quand il vient? Il vient avec ses anges. Si vous regardez en Matthieu 13, par exemple, vous allez voir ce qui va se passer. En Matthieu 13, il faut regarder tous les différents passages. Il y a question là, en Matthieu 13, d'une parabole de pêcheurs. Le royaume de Dieu, des cieux, est encore semblable à... Oh là là, 47, je crois. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Ça, c'est Matthieu 24. Quand Christ reviendra avec ses anges, qu'est-ce qui va se passer? Les anges vont prendre instantanément, écoutez-moi bien maintenant, parce que ceci est très important, il va prendre instantanément tous ceux qui ont reçu la marque de la bête, sur leur front ou sur leur main. Aussitôt, ils seront jetés en enfer, instantanément. Il n'y a aucun tribunal, rien du tout. Tous ceux qui ont pris la marque de l'Antichrist, j'appartiens à l'Antichrist, il va les jeter avec l'Antichrist. Instantanément. Ça, c'est pour cela qu'il vient comme un voleur. Et qu'il vient prendre tout ce monde-là instantanément. C'est pour cela qu'il faut être prêt. Vous savez qu'à partir de ce moment-là, Jésus ne fait que de parler. Soyez prêts. Soyez prêts. Toutes les choses. Noé, soyez prêts. Les vierges, soyez prêts. C'est-à-dire qu'on est à la fin. Maintenant, avant de prendre ces choses-là, il va nous dire l'époque dans laquelle nous sommes. Il va répondre à la question que les disciples ont posée à Matthieu 24, verset 4, là où ils ont dit, « Et quel sera le signe de ton avènement ?» Alors maintenant, il va répondre à cette question. Parce que les disciples voulaient savoir, quand est-ce qu'on peut t'attendre ? Alors, il faut que je m'arrête un instant pour vous dire que nous avons tous ces signes. Nous pouvons beaucoup mieux préciser l'enlèvement que des gens qui attendaient sa première venue. Ils avaient une seule date, la date de sa mort, quand il sera retranché de la terre. Mais quel âge aura-t-il à ce moment? 20 ans? 25 ans? 30 ans? 35 ans? À quel moment est-ce qu'on doit commencer à l'attendre? Vous savez, tout le monde avait la prophétie en Daniel qu'il sera retranché de la terre telle date. Et d'ailleurs, il était retranché ce jour-là. Hein? Il est mort le jour que c'était prédit. Hein? Mais le jour de sa naissance n'a pas été donné. Il fallait calculer. Alors, combien de personnes ont bien calculé sa venue? Deux. Vous dites, ah, je sais, le grand souverain sacrificateur. Non, non, non. Non, vous vous trompez. Alors, les scribes. Non, 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 vous vous trompez. Mais qui alors? Siméon, un vieillard, et Anne. Et les deux sont venus au temple, toujours en attendant qu'il soit né. Et un jour, Dieu a dit à Siméon, vas-y aujourd'hui, tu vas le voir. Vas-y aujourd'hui, tu vas le voir. Vous savez, nous, avec tous les signes que nous avons, nous allons les regarder maintenant. J'espère que ce message restera dans votre esprit parce que c'est de toute importance. Parce qu'il a dit, tirez maintenant une leçon du figuier. Quand le figuier, les branches sont tendres, c'est le verset suivant. Hein. C'est difficile pour moi de lire, je peux citer mieux. Sachez que l'été approche. Et puis il a dit, cette génération-là, qui habite à ce moment-là, quand tous ces signes arrivent, c'est ça qu'il veut dire. Quand vous verrez tous ces signes, les tremblements de terre, les famines, tout ce que nous voyons, sachez que cette génération ne passera pas avant que tout n'arrive. Alors ceci est de toute importance, ça. Beaucoup plus précis que la naissance de Christ. Une génération, c'est combien de temps? Si vous regardez en psaume 90, vous allez trouver la réponse, quelque part en psaume 90. Il dit là que pour quelques ans, une génération est 70 ans, et pour d'autres, pour les plus robustes, 80 ans. Savez-vous combien d'années Israël, depuis combien d'années Israël est né? 62. Cette année. On vient juste de célébrer 62e année. Alors, cette génération qui verra la naissance d'Israël, 48, ne passera pas avant de voir Christ venir en gloire. Ouh. Alors, 70 Alors, vous savez, vous pouvez enlever 7 ans de tribulation, puis vous pouvez enlever peut-être 4-5 ans en plus. Ça fait 12 ans. Déjà, les 70 ans sont passés. Nous cheminons vers les 80 ans. Et les 80 ans ne sont pas loin. Entre maintenant et le retour de Christ en gloire, écoutez-moi, entre là, il y aura des guerres. Il y aura des guerres qui vont avoir lieu. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Alors, quelle tranche est-ce qu'on peut donner? D'après avoir étudié tous les signes, il serait difficile de concevoir l'enlèvement plus loin que fin 2012. Vous dites, est-ce qu'il ne pourrait pas venir 2013, bien sûr. Je vous donne une tranche qui tombe avec tout le reste qu'on est en train de voir actuellement. Je ne suis pas le seul qui donne cela. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus à la même idée, que probablement 2012, c'est la limite. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre là. Il peut venir n'importe quand maintenant, n'importe quel jour. Nous sommes la dernière génération, les 70 ans sont passés, nous sommes déjà très très proches de cela. J'aimerais vous faire imaginer, vous vous couchez le soir, et puis il y a l'enlèvement. Et vous quittez tout ce que vous connaissez, toute la vie que vous connaissez. Et vous êtes enlevé, vous rencontrez des anges qui vous conduiront, et vous allez voir Christ face à face, qui vous amènera devant Dieu le Père. Vous allez voir la gloire là-bas. Et vous dites, bon, bientôt je vais me réveiller. C'est un rêve. Ce n'est pas un rêve. Vous y êtes. Pour l'éternité. Pour l'éternité, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à partir maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire plutôt que partir? On est très, très, très proche. C'est la réalité de la chose qui est difficile à saisir. Moi, je vous avoue, hein, je ne peux pas imaginer que peut-être avant dimanche prochain, qu'on soit enlevé avec Christ dans les nuages. C'est difficile. J'arrive pas à le saisir. Et c'est pour cela qu'il y a une couronne pour celui qui aime son avènement, qui gagne des âmes, qui fait tout ce qu'il peut, qui vit comme il faut, qui est toujours là, prêt à faire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent plus que l'enlèvement? Vous savez, on y est maintenant. Oui, on a crié loup, on a crié loup. Mais il est venu à la fin. Oui, on a dit qu'il allait venir bientôt, mais maintenant les 70 ans sont passés. Les 80 ans sont juste devant nous. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer avant, des guerres. Qu'est-ce qui reste? 3 ans à peu près. Et nous serons au ciel. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que quand la trompette sonnera, que vous allez partir, autrement vous resterez avec l'Antichrist, avec les terreurs, avec les angoisses, avec tout ce qui va se passer sur terre. Réfléchissez et commencez à peser vos jours, car ils sont limités maintenant. Nous avons à peu près tous le même âge. Vous me regardez, oh il est vieux, non. Si on va partir dans 3 ans, nous avons tous le même âge. Hein. On va partir à ce moment-là. Est-ce que vous êtes prêts? Prions Dieu.